Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nous allons vous proposer aujourd'hui un sommaire encore très varié, avec de la musique symphonique, de l'opéra et de la musique de chambre, c'est-à-dire à peu près tous les genres que cette émission est susceptible d'aborder. Il va donc y en avoir pour tous les goûts, et pour en parler, j'ai la chance de pouvoir compter de nouveau sur mes amis Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et sur Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Tous les trois, nous avons le plaisir de recevoir Ariel Sirat, ex-président du Festival Musique au Palais, dont la 6e édition a lieu le week-end prochain, les 27 et 28 novembre, dans le cadre somptueux du Palais Niel à Toulouse. Ariel Sirat ne préside plus aux destinées de cet événement, mais il va se produire en tant que pianiste lors du Festival 2021. C'est avec lui que nous allons vous présenter les 6 concerts qui y sont programmés, dont les deux où il va intervenir lui-même. Nous allons voir ça tout à l'heure en seconde partie d'émission. Dans l'immédiat, c'est à l'actualité récente que nous allons nous intéresser avec Robert et Serge. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et nous revenons tout de suite sur le concert donné par l'Orchestre de l'Opéra National de Paris vendredi 19 novembre à la Halle aux Grains pour le compte de la saison des grands interprètes sous la direction du nouveau directeur musical de cette prestigieuse formation, Gustavo Dudamel. Avant de rappeler le programme de cette soirée et de nous donner vos impressions, Serge, il faut qu'on explique pourquoi le concert a commencé avec plus d'une demi-heure de retard, presque trois quarts d'heure même, parce que de nombreux spectateurs s'en sont offusqués et ont manifesté leur mécontentement. Il y avait bien sûr une raison à cela, et une bonne raison.
Une raison majeure, on peut dire, puisqu'il s'agissait de la découverte dans l'après-midi d'un cas positif à la Covid-19, et donc qui a été identifié le jour même au sein de l'orchestre qui était en tournée. C'était le premier concert de sa tournée. Donc, affolement, évidemment, on imagine. Hein. Et donc, plusieurs cas contacts ont été écartés en même temps que le musicien qui était positif. Donc. Et ils ont cherché dans l'après-midi à obtenir l'aide de musiciens locaux, c'est-à-dire ceux de l'Orchestre National du Capitole, pour suppléer ce manque de musiciens. Ouais. Donc ça a été vraiment... in extremis que nous avons pu assister à ce concert et donc des musiciens de l'orchestre du Capitole sont venus intégrer l'orchestre de l'Opéra National de Paris et en particulier une grande musicienne que l'on connaît bien à Toulouse qui joue du cor anglais qui est Gabrielle Zanneboni, bien connue ici. Et apprécié, c'est une grande musicienne.
On en parle souvent dans cette émission d'ailleurs de Gabrielle Zanneboni pour
absolument.
Saluer ses solos lorsqu'elle en a.
Et là, elle en avait un très gros puisque elle avait le solo de la scène au chant de la Symphonie fantastique de Berlioz. Seulement, il se trouve qu'elle jouait aussi dans la fosse. En même temps, le même soir, dans la fosse du Théâtre du Capitole, puisqu'elle faisait partie des représentations de Wozzeck. Donc, il a fallu retarder le début du concert pour qu'elle puisse arriver à temps pour la scène au chant. Donc,
heureusement que c'était Wozzeck et pas un opéra de Wagner, sinon...
Non,
je pense qu'ils auraient été obligés de modifier le programme, tout simplement.
Ah oui, mais modifier le programme en enlevant...
Encore faut-il que ce soit possible, je suis d'accord.
L'œuvre majeure de ce programme...
C'est vrai, c'était le morceau de bravoure du programme.
Difficile. Et puis donc, signalons que la tournée de l'orchestre a dû être interrompue. Deux jours plus tard, il devait jouer à Barcelone, au Liceo. Eh bien, ils ont reporté les concerts qui devaient suivre.
En tout cas, vendredi dernier, on a pu sauver les meubles grâce à Gabrielle Zanneboni qui est arrivée, je me demande même si elle n'est pas arrivée à vélo du Théâtre du Capitole à la Halle aux Grains pour rejoindre sa place au début du deuxième mouvement de la Fantastique. On l'a vu arriver là, discrètement.
Oui, oui.
Alors ça va, elle est petite, donc elle a pu passer assez inaperçue.
Elle avait ça très discrètement.
Quand elle a joué, elle n'est pas passée inaperçue, parce qu'elle a été remarquable. Ouais. Alors Serge, parlez-nous un peu de ce programme, de l'interprétation.
Le programme était orienté musique française, même s'il y avait du Mozart au milieu.
Oui, c'est le Mozart de Paris.
Puisque c'était la symphonie 31, donc
Symphonie Paris,
composée à Paris. Mais le tout débutait par une œuvre de Ravel, l'Alborada del Gracioso, donc cette pièce très brillante, très belle, qui à l'origine était pour piano, mais là évidemment il s'agissait de la version pour orchestre, et là on a pu découvrir, si on ne la connaissait pas déjà, si on ne les connaissait pas déjà, les qualités de ce bel orchestre, quoi. Des couleurs magnifiques, couleurs instrumentales, et puis avec la direction de Gustavo Dudamel, cette tenue du rythme qui est vraiment souverain là, d'un bout à l'autre de la pièce, et qui ne manquait pas de poésie non plus. Donc vraiment un grand moment que cette interprétation de l'Alborada. Ensuite donc, évidemment, contraste évident de style, puisqu'il s'agissait de la 31e symphonie de Mozart. Et alors, qui a été joué là avec un effectif que, pour ma part, je trouvais pléthorique. Mais non, en fait non, puisque Mozart, lorsqu'il était à Paris, avait à sa disposition un très grand orchestre pour l'époque. Et donc finalement, c'était très logique. Et malgré l'effectif, donc, le jeu de l'orchestre était à la fois transparent et précis, avec les accentuations qu'il fallait dans le phrasé. Vraiment, absolument pas le moindre excès de romantisme dans cette interprétation. Donc, c'était vraiment...
J'ai été frappé par la direction de Dudamel. C'est très clair, c'est très dépouillé. On ne dirait pas que c'est un Sud-Américain, d'ailleurs.
Non, exactement, exactement.
Pas d'ostentation, très belle direction.
Signalons que le chef, donc, était masqué, en plus. Il dirigeait masqué.
Oui, les musiciens,
et
en
les
tout
musiciens
cas,
de
qui
corde,
n'étaient pas dans les vents, évidemment, ils étaient tous masqués aussi.
Également. Et pour cause, oui. Et enfin, en dernière partie, c'était évidemment ce que Berlioz a appelé « Épisode de la vie d'un artiste, symphonie fantastique en 5 parties ». C'est le titre exact que Berlioz donnait à sa symphonie. Et là, bon, une œuvre à programme, évidemment, avec une direction de Gustavo Dudamel à la fois acérée, analytique et avec un souffle vraiment magnifique. Donc, moi, j'ai été très étonné de la qualité du style français qu'il a donné à cette interprétation et avec le côté très original de sa conception. Vraiment, il y avait des passages où on sentait que ça n'était pas ce à quoi on était habitué, mais c'était tout à fait convaincant. Donc, très belle performance, avec, en particulier dans la scène au bal, c'était élégant, certes, mais menaçant. Il a dirigé avec la menace qui pointe quand même, comme toujours. Et puis, évidemment, l'utilisation du fameux thème de l'idée fixe, le thème de la bien-aimée, qui arrive toujours au bon moment. Très très bien. Et puis la scène au chant, poétique en diable, comme c'était pas possible, magnifique, avec ce havre de repos que représente cette scène au sein de la symphonie, avec ses roulements de tonnerre, et puis surtout le grand solo bucolique, on peut dire, du cor anglais, qui se joue en écho avec le hautbois en coulisses.
Oui.
Et là, ce passage doit beaucoup, encore une fois, aux qualités sonores et à la musicalité de Gabriel Zanneboni, vraiment, qui était là, en l'occurrence, la soliste infiltrée au sein de la phalange lyrique. Donc, vraiment, un grand bravo à elle.
Oui, et sa prestation a été saluée par Gustavo Dudamel, lui-même, à la fin, bien sûr, qui l'a fait lever,
applaudir. Il l'a fait lever. Elle a été acclamée par tous les musiciens de l'orchestre.
Et par le public, parce que c'était plein ce soir-là.
Absolument.
C'est la première fois cette année que je vois l'Allograin rempli à ce point-là.
Oui.
Mais il y avait des Vénézuéliens dans la salle, parce qu'il y a eu un drapeau vénézuélien déployé. Surtout quand Dudamel est parti en coulisses et est revenu plusieurs fois. Voilà, il a pu voir le drapeau de son pays déployé sous ses yeux. Et voilà, c'était un triomphe pour l'orchestre, pour le chef.
Voilà.
Écoutez, c'était une belle soirée.
Oui, mais
qui n'a tenu qu'à un film et qui a pu avoir lieu.
Voilà. Ce qui m'a frappé aussi, c'est la modestie du chef qui ne se met jamais en avant pour le salut. Il met son orchestre en avant et lui, il reste en retrait. Il n'est pratiquement jamais monté sur le podium pour saluer.
C'est pas un Sud-Américain excentrique, lui. Hein.
Non. Vraiment intéressant. Bon, un très beau moment. Nous avons eu beaucoup de chance.
Oui, absolument. Eh bien, nous allons écouter la Symphonie Fantastique sous la direction de Gustavo Dudamel, parce que c'est pas la première fois qu'il a dirigé, on a pu s'en rendre compte, mais à la tête de son orchestre philharmonique de Los Angeles, dont il est aussi directeur musical. Il s'agit d'un extrait du 5e et dernier mouvement, Songe d'une nuit du sabbat. Extrait du cinquième et dernier mouvement « Songe d'une nuit du sabbat » de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, dirigée par Gustavo Dudamel à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles. Vous noterez que le prochain concert du cycle des grands interprètes est programmé dimanche 5 décembre à 18h à l'Allogramme bien sûr, et que nous allons pouvoir y entendre le duo formé par Philippe Jarouski et notre cher guitariste toulousain Thibaut Garcia. Le même soir que le concert de l'Orchestre de l'Opéra National de Paris avait donc lieu au Théâtre du Capitole la première de Wozzeck, l'opéra d'Alban Berg, dans la nouvelle production mise en scène par Michel Faux, et avec les prises de rôle, très attendues, je le redis, de Sophie Coche et Stéphane Degout, respectivement Marie et Wozzeck sur scène. Il y avait donc beaucoup de raisons d'être impatient d'assister à cette production, que j'ai pour ma part découverte dimanche, c'était pour la deuxième, et personnellement, j'ai été vraiment très impressionné par la mise en scène, par les décors, par l'interprétation. L'œuvre est géniale, ça on le savait, encore fallait-il être à la hauteur du génie d'Alban Berg. Eh bien vous, Robert Pénavert, qu'est-ce que vous avez pensé de cette production que vous avez découvert le jour de la première ?
Bien, écoutez, nous avons attendu près de 30 ans avant de réentendre Wozzeck au Théâtre du Capitole, mais j'aurais tenté de dire que vraiment ça valait la peine d'attendre. Donc c'est un spectacle, je suis tout à fait de votre avis, qui est absolument parfait. C'est un spectacle intelligent, scéniquement, musicalement parfaitement achevé, avec des prises de rôle somptueuses, n'ayons pas peur des adjectifs, des qualificatifs. Voilà, c'est vraiment... Alors, on va rentrer un peu dans le détail, évidemment, puisqu'une fois que ça est dit, on l'a dit, mais on n'a rien dit du tout. Alors, en fait, c'est une coproduction avec l'Opéra de Monte Carlo, et c'est nous qui les traînons. C'est une production qui est mise en scène par Michel Faux. Alors Michel Faux, c'est pas la première fois qu'il vient. Alors nous connaissons l'acteur, l'immense acteur, le metteur en scène également.
De théâtre, formidable.
Absolument. Alors je rappelle simplement pour les amateurs qui se produira au Théâtre de la Cité dans le cadre de la saison Hors les murs d'Odissus d'un Georges Dandin. Genre Molière Lully, parce qu'il y aura également des musiciens, on aura l'occasion d'en reparler.
C'est l'opéra ballet.
Et c'est l'opéra ballet, voilà, exactement. Bon, revenons à Wozzeck. Alors, la question était de savoir qu'allait faire Michel Faux de ce Wozzeck. Est-ce qu'il allait se tenir aux didascalies qui sont dans la partition, qui sont extrêmement précises? Est-ce qu'il allait se reporter à l'œuvre de Georg Büchner? Début 19e siècle, est-ce qu'il allait se reporter aux faits divers, puisque malheureusement c'est un fait divers que le dramaturge avait mis en scène. Alors en fait, il a trouvé autre chose. Il a trouvé autre chose et il a été attiré par le personnage de l'enfant. En fait, dans l'œuvre de Berg, il y a, comme dans l'œuvre de Puchin, il y a un enfant, un petit. C'est l'enfant de Marie et de Franz Wozzeck, qui a normalement 4 ou 5 ans. Voilà. Et donc, dans l'opéra, on ne le voit vraiment que... Enfin, on ne le voit pas qu'à la fin, mais on se souvient de lui à la fin, puisque sur les dernières scènes, il est à cheval sur son cheval de bois. Voilà. Et alors que ses camarades lui crient « Ta mère est morte ». La mère est morte, voilà. Bon, bref. Et lui, on n'a pas l'impression qu'il s'en rend compte. Il continue. C'est une scène terriblement poignante, émouvante, terrible en même temps. Et en fait, Michel Faux s'est dit, je vais remonter à l'époque napoléonienne au niveau décor et costume, et je vais montrer cette pièce au travers du regard de cet enfant. Alors évidemment, vu les horreurs qu'il y a dans cette pièce, c'est-à-dire Marie plus ou moins violée par le tambour-major, le père de l'enfant, dont Wozzeck est broyé littéralement par la société qui l'entoure, il sert de cobaye humain à un docteur type Follamour, bon voilà, c'est... Et puis finalement quand même, n'oublions pas qu'il finit par tuer la mère de l'enfant, hein, bien sûr, et à la fin il se suicide, donc vous voyez, tout va bien, mais enfin bon, on n'est pas quand même dans...
Ah c'est voilà, pas de la franche rigolade, ça c'est sûr.
Voilà, c'est... Bon. Donc que faire? Je le dis parce que, vous le savez, j'ai eu l'occasion de faire un entretien avec lui. Il m'a expliqué, il m'a dit, moi, très rapidement, j'ai voulu faire ça. Mais je me suis trouvé devant cet écueil, comment mettre un enfant de 4 ou 5 ans témoin de tout ce que le public va voir. Ça, c'était impossible. Donc, il a cherché un comédien. Il a trouvé Dimitri Doré. Alors, effectivement, il est petit, il doit faire 1,55 m à peu près. Il est tout blond, il a un visage très juvénile.
On dirait un adolescent, alors, je ne sais pas quel âge il a, Dimitri Doré.
Il a 27 ans.
Voilà, bon, c'est vrai, on pourra lui en donner facilement une douzaine de mois.
Ah oui, une douzaine de mois facilement. Bon, donc,
en plus de la façon dont il est habillé.
Et la façon dont il joue, bien évidemment. Il est habillé avec une espèce de longue chasuble blanche.
Oui, oui.
Voilà, style enfant de cœur, mais ce n'est pas du tout ça, hein, mais le style, voilà. Et il va situer tout l'opéra dans une chambre type chambre d'hôpital qu'on peut deviner hôpital psychiatrique. Et le gamin va avoir comme seul repère, comme seul lieu pour s'abriter, le lit. Alors dans ce lit, se passe tout. Y compris un moment, en soulevant les draps, il trouve le cadavre de sa mère. Quoi. Bon. Il y a un peu l'ambiance générale de cet opéra. Mais entre-temps... Il va avoir dans cet opéra, parce qu'il va avoir depuis son lit où il est amitouflé sous sa couette jusqu'au cou et même parfois il s'en recouvre tellement il a peur, il va voir tout l'opéra se dérouler devant lui. C'est-à-dire les expériences que le docteur fait sur son père, la manière dont le capitaine se moque, broie littéralement...
Humilie son père.
Alors, son père est en train de raser le capitaine pour gagner quelques sous. De même qu'il est cobaye aussi pour gagner quelques sous et qui remet d'ailleurs tendrement à Marie chaque fois qu'il rentre chez lui. Mais malheureusement, dans ce cercle infernal, il y a un tambour-major, un beau tambour-major. Et donc, Marie va plus ou moins céder à
un opéra sur la jalousie, parmi d'autres sentiments.
Ah, mais il y a 50 000 thèmes.
Extrêmes.
C'est d'une richesse. Il faudrait faire 10 opéras sur un thème chacun et ça tiendrait le coup. Que voilà, c'est d'une richesse absolument incroyable. Voilà. Ça, c'est pour la mise en scène. Une mise en scène, Eric, j'imagine que vous êtes de mon avis, une mise en scène théâtrale.
Oui, direction d'acteur formidable.
Une direction d'acteur qui est vraiment au cordeau.
Les décors sont formidables.
Les décors, les décors, ce sont des décors... si vous voulez, cette chambre, elle est un peu en spirale. Un peu comme l'esprit du petit, qui est un peu désorienté, pour ne pas dire très désorienté.
Et puis tout est biscornu, tout est tordu.
Voilà. Et alors, dans cette chambre, il faut noter qu'au
tout
début, au-dessus de son lit, il y a une croix, une petite croix.
Il va grossir
et qu'à la fin, ouais, la croix va envahir quasiment toute la scène, mais on vous expliquera pourquoi après. Mais également, il va monter une espèce de reptile, un énorme lézard derrière lui. Puis en contrepartie, il va apparaître un ange qui va descendre du ciel. Puis bon, voilà, mais c'est d'une richesse visuelle. Alors, les éclairages également, les éclairages sont...
Les jeux de lumière sont formidables.
Les jeux de lumière.
Les ombres portées aussi.
Les ombres portées parce que effectivement, nous sommes complètement dans une esthétique expressionniste.
Oui. Voilà. Ça renvoie beaucoup au cinéma, effectivement, expressionniste allemand, de l'époque de la création...
De la création
de l'œuvre d'Alban Berg.
D'Alban Berg.
Pas de Böchner, d'Alban Berg.
Voilà,
avec 1925. Ses ombres portées qu'on voit dans le Nosferatu de Murnau, dans le Maudit de Fritz Lang.
Voilà.
On est vraiment là-dedans. Hein.
Mais
entre autres références, il y en a d'autres, hein, je pense.
Mais il y en a mille autres.
Ouais.
Il y en a mille autres, donc si on est un peu attentif, très clairement, à la fin, on se dit, faut revenir le voir parce que je suis sûr que j'ai manqué des choses. Ce qui est le cas, d'ailleurs, pour ma part, j'avoue qu'en discutant avec des amis, ils m'ont fait remarquer des points de détail que, évidemment, j'avais loupé parce que je regardais ailleurs sur la scène et j'avais pas vu ce petit détail. Voilà. Donc, c'est un foisonnement d'idées parfaitement cohérentes. Alors, le tout n'est pas, et ça, je tire vraiment mon chapeau à Michel Faux, le tout n'est pas qu'il ait trouvé le pitch de « bon, on va regarder cette pièce au travers du regard de l'enfant ». Bon, ça, oui, pourquoi pas. Sauf que beaucoup ont ce genre d'idées comme ça, one shot, qui marchent 10 minutes et puis après, bon, ça marche plus, ça dérape. Sauf que là, ce que fait Michel Faux est cohérent d'un bout à l'autre. Et c'est d'ailleurs, moi, je pardonne beaucoup à de nombreux metteurs en scène d'aujourd'hui qui, parfois, dérapent un peu sur le livret, en extrapolant, bon, enfin, etc. Si c'est cohérent, je leur pardonne. Alors, le problème, c'est lorsque, comme je dis, ça marche 10 minutes et puis ça marche plus.
Très souvent, les metteurs en scène aujourd'hui, dont beaucoup viennent du théâtre, d'ailleurs, pas toujours de l'opéra, ont tendance un peu à tirer des histoires qui datent de 2 ou 3 siècles avant sur l'actualité d'aujourd'hui et sur les idéologies d'aujourd'hui. Ça, souvent, je trouve que c'est pas très bon. Là, voilà. Michel Faux n'est pas du tout tombé dans ce piège.
Hein. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout.
Ce qui n'empêche pas que ce qu'il nous dit est universel.
Voilà.
Justement.
Voilà, absolument. Alors, les décors, on va dire, sont d'Emmanuel Charles, les costumes de David Belugou. Alors, il faut savoir que les costumes des soldats, puisqu'il y a un moment où il y a des soldats et dont le tambour-major, alors, ce sont des marionnettes, en fait. C'est une marionnette des soldats de plomb, tout neuf, qui viennent d'être repeints, avec des couleurs, mais pétards complets.
Ah, ça, c'est assez flashy, effectivement.
Et Marie et Margaret, qui est un personnage secondaire, sont des poupées, avec des robes un peu courtes d'ailleurs, avec genre dirndl, fessées. Mais vraiment, c'est un enfant qui les voit, ne l'oublions pas.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc voilà. Et puis on pourrait en parler comme ça, mais il faut également parler à distribution locale quand même.
Parce que les rôles principaux.
Bon, hein. Parce que quand même, bon, je vois Serge n'est pas content du tout, mais parce qu'il n'a pas vu la production. Mais voilà, alors la production, on va dire, vocale et musicale. Alors d'abord dire que c'était dirigé par Leo Hussein, qui est un chef britannique de très très grand talent, que nous avons eu l'occasion d'entendre au Capitole, en particulier pour la création in loco de La ville morte de Korngol, qui était un gros morceau également. Voilà, et donc évidemment, il a face à lui l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, qui est une immense phalange et qui a répondu parfaitement à toutes ses exigences, de même les exigences de cette partition qui mélange tout un tas de choses en termes de style, de Richard Strauss à Debussy, de Puccini à... Bon, voilà, il y a du dodécaphonisme, il y a de la tonalité, il y a du romantisme, il y a tout un tas de choses. Il faut être très, très, très malin pour donner cohérence également à cette partition, qui est une partition littéralement cinématographique, en fait.
Oui.
C'est ça qu'il y a d'extraordinaire.
Mais il faut vraiment voir cet opéra sur scène, écouter cette musique avec la scène, avec les personnages.
Voilà.
C'est là vraiment que ça prend toute sa dimension.
Ah oui, absolument.
Et tout son sens.
C'est certainement pas quelque chose d'écouter un disque.
Non.
On peut l'écouter, bien évidemment.
Oui,
certes, mais on perd quelque chose. Mais en particulier, dans cette production, alors j'ignore si ça sera capté, j'en sais rien, mais ce serait dommage que ce soit capté. capter, avec cette distribution. Alors justement, cette distribution, il faut quand même y arriver. Et donc, Christophe Christie s'est aventuré dans une drôle d'histoire, parce que cet opéra est très difficile à chanter. Et en fait, à une exception près, tous les chanteurs prenaient leur rôle. Ce qui est extraordinaire quand même.
Bon, il
faut dire qu'ils ont travaillé quasiment deux mois. Mais quand même. Alors évidemment, tout seigneur, tout honneur, bon, c'est Stéphane de Goute, tout le monde le sait, qui chantait son premier Wozzeck. Et dès ses premières paroles, Serge, tu verras lorsque tu vas l'entendre, dès ses premiers mots, on sait qu'on a là l'un des grands Wozzeck de l'histoire. Ça, très clairement. En particulier, le personnage, mais là, il y a le travail de Michel Faux, plus l'intelligence dramatique, l'engagement de Stéphane de Goute, mais il y a également, vocalement, un Wozzeck. Alors, de très nombreux Wozzeck, bon, évidemment, comme tout le monde autour de cette table, j'en ai entendu beaucoup, mais ben, c'est une partition qui se chante sur trois octaves. Donc, trois octaves, très clairement, c'est un peu difficile, dont beaucoup, assez rapidement, et se lancent dans le chanté-parlé, le Sprechgesang, ou alors dans des cris. Bon, ben ça, il ne le fait pas du tout. Il chante toutes les notes possibles, imaginables, avec une rondeur d'émission, avec des demi-teintes, mais avec un phrasé parfois, mais c'est stupéfiant. Je n'ai jamais entendu Wozzeck chanter comme ça.
Ça a l'air facile.
Jamais. Et avec lui, ça a l'air facile.
Ça a l'air facile, c'est ça qui m'a frappé d'emblée, moi.
Alors, à ses côtés, autre prise de rôle, évidemment, Sophie Koch, qui abordait sa première... Alors, bon, certes, le rôle de Marie est peut-être un peu moins exposé, mais elle le fait avec beaucoup d'intelligence également, avec un aigu lumineux éclatant. Et au terme de cette représentation, on comprend mieux pourquoi elle va aborder dans quelques mois Sieglinde à Marseille. Ça, c'est évident qu'elle est en train petit à petit de se transformer, mais vers si ce n'est un grand dramatique, mais vers un soprano grand lyrique.
Et quelle belle comédienne. C'est vraiment...
Et c'est une splendide comédienne.
Il y a une belle direction d'acteur, ça c'est sûr. Là, souvent on critique, là il y a une vraie direction d'acteur.
Ah ben, ça c'est clair. À côté, autre prise de rôle, mais un chanteur que l'on connaît bien, un ténor autrichien qui habite dans le Lot, voilà, Cocorico, qui s'appelle Nikolaï Choukov, qu'on a vu fort heureusement assez souvent à Toulouse et donc dernièrement dans Parsifal. Et lui qui a abordé bon, ce rôle pas très reluisant de phallocratomachiste pour le moins du tambour major. Voilà, mais qu'il a fait évidemment. Bon, quand on peut chanter Parsifal, bon,
c'est un excellent comédien.
Ensuite, Thomas Bettinger chantait Andrés, qui est le rôle le plus lyrique en définitive, Andrés, mais il le fait avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de sensibilité. Falk Struckmann chantait le docteur. Alors, c'est un grand baryton aussi qui a son répertoire. Et, enfin, il y a quelques années, il chantait Wotan, il chantait des rôles comme ça. Donc, ce qui fait que le docteur, mais il en fait un docteur très, très inquiétant, très impressionnant. Je disais tout à l'heure, on dirait un peu le docteur Follamour, parce qu'en définitive, il s'amuse en disant tout ce qu'il va faire avec ce pauvre Wozzeck. Mais ça l'amuse. Alors, ici, il va le tuer, il le sait, mais ça l'amuse. Voilà. Alors, il y en a un qui ne prenait pas son rôle. Et c'est un ténor dit de caractère qui s'appelle Wolfgang Ablinger-Sperasch et lui faisait le capitaine. Voilà. Bah, lui, on sent, bon, c'est l'un des plus grands mimes de sa génération, un magnifique héros de la Salomé de Strauss. Et donc, lui, il ne fait qu'une bouchée de. Mais il a fait très, très bien, bien sûr. Hein. Ensuite, citons Anaïs Morel, Mathieu Toulouse, le bien nommé, puisqu'il est né à Toulouse, qui faisait le premier ouvrier, Guillaume Andrieux et Christopher Lundin. Alors, Christopher Lundin, il faut 30 secondes encore, si vous permettez, parce qu'il fait l'idiot. Enfin, l'idiot, c'est le rôle, hein, c'est le nom du rôle.
C'est ce qu'on lui demande, il fait l'idiot.
Voilà. Et en fait, c'est lui qui, à la fin, amène l'enfant. Pousse ouais. L'enfant sur un immense cheval de bois. Immense cheval de bois. Et puis ensuite, il quitte la scène, il file dans les coulisses, mais il faut dire qu'il est habillé. Alors, on hésite entre Jésus-Christ et Rasputin, vous avez le choix, mais...
Un prophète, en tout cas.
C'est un prophète un peu inquiétant.
Vrai ou faux.
Oui.
Un peu inquiétant. Et alors,
un Christofou, on pourrait dire, il y a ce côté Christofou, comme on peut parfois en croiser dans les asiles psychiatriques. Hein,
voilà.
Parce que c'est une ambiance d'asile psychiatrique.
Ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est que lorsque l'enfant voit l'idiot, le fou, enfin, comme vous voulez, partir, il descend du cheval et il le suit.
Il suit, oui.
Donc, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'en fait... l'hôpital ou l'endroit où il était n'est pas une fabrique de monstres. C'est la question qu'on peut se poser.
Un enfant qui a assisté à tout ce à quoi nous on assiste pendant l'opéra, on peut se dire qu'effectivement, si ça ne laisse pas des traces sur lui, ça serait un peu étonnant tout de même.
En même temps, est-ce que ce que voit l'enfant et que nous montre Michel Faux, est-ce que l'enfant le voit réellement ou est-ce que
c'est un cauchemar,
il imagine.
Est-ce que c'est un cauchemar? Oui.
Bah écoutez, voilà.
On peut essayer d'imaginer que ce fou qui ressemble au Christ, peut-être justement, va le sauver. On peut aussi penser ça, hein, pourquoi pas, hein, pour ceux qui ont une vision optimiste des choses.
Mais, bien sûr, oui. D'autant que, à la fin, la croix a quasiment envahi toute la scène.
Ouais, effectivement. Donc il y a aussi des questions qui restent ouvertes. À chacun d'y répondre selon sa sensibilité ou ce qu'il a compris de l'intrigue. Grande réussite,
mais
vraiment.
Il ne faut pas oublier que quand même, à un moment, Marie, c'est un peu Marie-Madeleine.
Oui, bah oui.
Parce que, elle récite la Bible.
À un moment, c'est cité, carrément.
Voilà, c'est cité, oui. Donc, on peut imaginer,
C'est pour ça que ça vaut le coup de le revoir, parce que je suis sûr qu'il y a des choses qui nous échappent.
Voilà. C'est un spectacle somptueux.
Voilà, très, très grande réussite. Et pour refermer ce chapitre consacré à cette magnifique production de Voltsek au Théâtre du Capitole, en rappelant qu'il reste encore une représentation jeudi 25 novembre à 20h, voici encore un aperçu de la musique d'Alban Berg avec ce fameux interlude orchestral entre la scène 4 et la scène 5 de l'acte 3. Magnifique interlude orchestral entre la scène 4 et la scène 5 de l'acte 3 de Voltsek, cette œuvre géniale, absolument géniale, d'Alban Berg, dont il ne faut surtout pas rater la dernière représentation, je le répète, jeudi 25 à 20h au Théâtre du Capitole. C'est vraiment un très grand moment de spectacle vivant, de ceux qui vont rester en mémoire longtemps après y avoir assisté. Fin de cette première partie d'émission, nous faisons la courte pause habituelle avant de retrouver Serge Chosy, Robert Pénavert et Ariel Sirat pour vous présenter le festival Musique au Palais 2021 et sa programmation. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Retour à l'antenne en compagnie de Serge Chosy, Robert Pénavert et donc Ariel Sirat, notre invité d'honneur, avec qui nous allons vous présenter la programmation 2021 de Musique au Palais, 6e édition, les 27 et 28 novembre au Palais Niel à Toulouse. Vous en avez été le président, Ariel, lors des 4 premières éditions du festival, fondé par Emmanuel Sirat, que je salue au passage. Depuis 2019, c'est Serge Krichewski qui a pris la présidence et la direction artistique. Mais vous êtes toujours impliqué dans la programmation, puisque vous allez vous y produire en tant que pianiste, comme je le disais au début de cette émission. Ça me donne l'occasion de vous demander de rappeler ce qu'est la formule de ce festival. Il est vrai, assez particulière, puisqu'elle associe l'artistique au caritatif d'une part, et d'autre part parce qu'elle réunit des musiciens venus de divers horizons. Expliquez-nous un peu ça.
Alors en fait, l'idée est partie de la visite du salon de musique du Palais Niel, qui a une acoustique tout à fait exceptionnelle pour de la musique de chambre. On a pu entendre il y a quelques années un guitariste sans amplification. On entendait absolument tous les détails de son toucher subtil. Et de fil en aiguille, l'idée est venue de faire un festival de musique qui soit ouvert à tous ceux qui s'impliquent fortement dans cet art, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Et donc la formule est la suivante, c'est sur week-end, donc le samedi et le dimanche, une série de 6 concerts, 3 chaque après-midi, où alternent des grands amateurs, c'est comme ça qu'on appelle des gens qui ont un travail autre que celui de la musique à côté et qui consacrent le plus clair de leur loisir à perfectionner leur art et à se produire. Des étudiants qui se destinent à la carrière musicale et des musiciens professionnels chevronnés, le tout dans une programmation qui a, on va dire, un fil conducteur. Hein, ce n'est pas juste une série de récitals ou d'auditions, suivant le point de vue qu'on peut avoir. C'est vraiment, on essaye de raconter une histoire. Et d'ailleurs, il n'est pas rare que le public assiste à l'ensemble des concerts, tellement la variété et la continuité de ce fil musical sont intéressants.
Voilà, et donc tout ça se passe au Palais Niel, cet endroit somptueux avec un parc magnifique dont on peut profiter d'ailleurs entre les concerts. Et ça aussi, ça vaut la peine, un des plus beaux endroits de Toulouse, mais fermé au public parce qu'il appartient à l'armée de terre. Et il abrite entre autres les associations Entraide Parachutiste et une antenne de Terre Fraternité. Donc ça, ce sont des associations qui soutiennent les soldats gravement blessés ou handicapés ou les familles des morts au combat. Ils récoltent des fonds pour leur venir en aide et le festival y contribue, c'est ça le versant caritatif de cette manifestation, en leur reversant la majeure partie de ses bénéfices. Alors une des particularités, comme vous le rappeliez, Ariel Sirat, c'est qu'il y a toujours une thématique, un fil conducteur à chaque édition. Et cette année, ce fil conducteur, on pourrait dire, ce sont des dialogues entre compositeurs européens, mais de différentes époques, de différents styles et de différentes nationalités.
Alors la musique classique, en tout cas depuis la, enfin, dite classique depuis la fin du baroque, est une musique avant tout européenne, avec une grande circulation des savoir-faire, des techniques de composition, d'inspiration, d'expression. Et finalement, on a vu tous ces compositeurs s'inspirer les uns des autres. Et le programme proposé par Serge Kiesiewski permet de faire un certain nombre de correspondances tout à fait intéressantes entre compositeurs, entre les œuvres et entre les différents pays.
Alors donc, pour cette 6e édition du festival, la thématique tourne autour des influences, des dialogues plus ou moins conscients entre les compositeurs européens, par-delà les styles, les époques, les nationalités. Une thématique illustrée dès le premier concert du samedi 27 novembre à 14h30, Itinéraires européens, dialogue 1, c'est le sous-titre. Et vous y participez, Ariel Sirat. Quelles sont les œuvres, les compositeurs et les musiciens qu'on va y entendre en dehors de vous?
Donc, pour les musiciens qui joueront François Schwarzentruber, donc, qui est également un grand amateur, et Vincent Martinet, qui est un jeune professionnel, déjà tout à fait prometteur, et a été sélectionné quand même pour le concours Clara Askill, ce qui n'est pas donné à tout le monde.
On a déjà eu l'occasion d'entendre à Musée Copalais lors des deux précédentes éditions de mémoire, il nous avait déjà fortement impressionné ce garçon.
Et il a énormément progressé d'un point de vue artistique, c'est un régal. Alors ici, les correspondances sont très intéressantes, puisque dans cette première partie, on a une double correspondance en fait. On part un peu de Bach avec prélude et fugue du clavecin bien tempéré, joué évidemment au piano, et on enchaîne ensuite avec une œuvre, non pas pour orgue, mais d'un organiste, et d'ailleurs l'écriture pianistique s'apparente plus à celle de l'orgue qu'au grand virtuose du 19e siècle. On parle ici de prélude, chorale et fugue de César Franck, donc directement inspiré par Bach, dans le caractère, mais également dans la forme, puisque ici, Franck va finalement agréger deux formes qu'a développé Jean-Sébastien Bach, le prélude et fugue, mais également le choral, à une forme plutôt profane et une forme plutôt religieuse, intégrée dans un magnifique triptyque. Ensuite, on passe à Liszt. Alors, il faut savoir que Franck avait été reconnu par Liszt, dans son plus jeune âge, comme un grand virtuose du piano. Il est devenu après organiste. Et donc, on passe à Liszt. Et Liszt, on le connaît sous sa facette virtuose du piano, mais il faut savoir qu'il a écrit énormément d'œuvres religieuses, puisque la deuxième partie de sa vie, en fait, il s'est tourné vers la religion, sous l'influence probablement de sa deuxième compagne, mais ça remontait très loin. Il avait une vocation très jeune, il a failli devenir moine. Et donc cette œuvre, Bénédiction de Dieu dans la solitude, c'est plutôt une œuvre d'inspiration religieuse. Donc là, on a finalement un premier pont entre ces trois auteurs qui est plutôt autour de l'inspiration religieuse, et un deuxième pont qui va être beaucoup plus sur l'inspiration virtuose, puisqu'on passe de Liszt à Ravel avec Gaspard de la Nuit, donc là inspiré évidemment par les poèmes d'Aloysius Bertrand, et qui reprend à merveille, hein, en adaptant à l'esthétique du début du XXe siècle, toute la virtuosité pianistique de Franz Liszt.
Voilà, donc Jean-Sébastien Bach, ce sera pour vous. Ariel Sirat, César Franck, chez vous aussi. Bénédiction de Dieu dans la solitude, ce sera François Fersen-Trüber. Et enfin, Gaspard de la Nuit, c'est pour Vincent Martinet. Vincent Martinet, qu'on va écouter maintenant jouer, non pas Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel, mais la toccata du tombeau de Couperin. La toccata du tombeau de Couperin de Maurice Ravel, interprétée par Vincent Martinet, un des pianistes qui se produit lors du premier concert, samedi 27 novembre à 14h30, itinéraires européens, dialogue 1, à la suite de François Fersen-Trüber et Ariel Sirat. Le deuxième concert du samedi à partir de 16h30 a été intitulé « Du vent dans les cordes ». Pourquoi ce titre ? Eh bien parce que l'instrument vedette en est la clarinette, associée au violoncello, au piano. La clarinette qui a beaucoup inspiré les romantiques allemands, Ariel.
Alors pour commencer par Robert Schumann, hein, avec ses Fantasies Stücke opus 73, écrit initialement pour clarinette et piano, mais régulièrement transcrite pour des instruments à cordes, que ce soit l'alto ou le violoncelle. Ouais. Donc trois pièces absolument fantastiques. Et effectivement, on a ce mélange entre l'expression, ou cette ambiguïté dans l'expression, entre la clarinette et les cordes. Ensuite, donc, on va passer au grand duo concertant de Carl Maria von Weber, et pour arriver à une œuvre absolument fabuleuse, hein, qui est le trio de Johannes Brahms pour clarinette, violoncelle et piano, où là, vraiment, Brahms a marié ses deux expressions, hein, des cordes et de la clarinette, évidemment, avec derrière un piano extrêmement riche.
Voilà, donc ça c'est un très très joli programme romantique allemand avec la clarinette au centre de ce programme, et on pourra y entendre Antonin Udrisi au violoncelle, Lilian Lefebvre à la clarinette, Jean-Baptiste Mézières au violoncelle, Anne Marty au piano et encore Vincent Martinet au piano. Que des jeunes musiciens, sauf Anne Marty qui est un peu plus expérimentée. Le troisième et dernier concert de cet après-midi du samedi, ce sera un récital de Jonas Vito, grand pianiste que nous avions déjà eu le plaisir d'entendre lors de l'édition 2019. Il va jouer un programme sous-titré « Ce qu'a vu le vent d'Est ». Je suppose que c'est en référence au prélude de Claude Debussy, « Ce qu'a vu le vent d'Ouest ». Mais là, le vent souffle dans la direction opposée. On va retrouver du Jean-Sébastien Bach.
Avec une transcription d'un choral, hein, Ich ruf zu dir her, de Jean-Sébastien Bach, transcrit par Ferruccio Busoni. On va retrouver aussi une œuvre de César Franck, qui, de mon point de vue très, très modeste, est un peu une esquisse du prélude chorale et fugue. C'est le prélude fugue et variation, écrit initialement pour orgue. Hein, c'est quelque chose qu'on connaît plutôt à l'orgue, mais transcrit au piano, piano-violon et autres. Donc ce sera très intéressant d'entendre ça dans la foulée du prélude chorale et fugue. Ensuite Beethoven, avec la 17e sonate La Tempête, et pour finir, deux heures de Claude Debussy, le livre 2 des images, donc écrit directement pour piano, et une transcription, ce qui est tout à fait remarquable, hein, de la part du pianiste Jonas Vitto, hein, du prélude à l'après-midi d'un faune.
Voilà, Jonas Vitto qui a transcrit pour le piano, pour son piano, le fameux prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy. Ça sera intéressant d'avoir Beethoven et Debussy en miroir, parce qu'on sait que Debussy n'aimait pas trop Beethoven, en tout cas. Il disait que c'était un génie qui n'avait pas très bon goût, ce qui est assez curieux comme présentation. Alors, je le disais il y a quelques minutes, Jonas Vitto est un grand pianiste, malheureusement beaucoup moins médiatisé que d'autres, et c'est bien dommage. En tout cas, c'est bien qu'on puisse l'entendre à Musique au Palais. Voici un petit extrait de la transcription qu'il a réalisée pour le piano du fameux prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy. Petit extrait de la transcription du prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy, réalisé par Jonas Vitto et joué par Ses Bons Soins. C'est une des pièces au programme de son récital Ce qu'a vu le vent d'Est, samedi à 18h30, le troisième et dernier de cette première journée, et le lendemain, dimanche 28, premier concert à 15h, dédié au lead et à la mélodie, deux genres qui ont beaucoup dialogué de part et d'autre du Rhin. C'est donc le troisième dialogue entre compositeurs européens, illustré par quelles œuvres et quels interprètes, Ariel Sirat?
Alors, pour les interprètes, nous aurons Amélie Debeer à la flûte, Amma Martin au piano, Martin Keval, baryton basse, et Julie Sotiropoulos au piano.
Oui, c'est pas facile à prononcer.
Alors, le chant, premièrement vu par Chopin. Alors, Chopin écrit principalement pour le piano, mais son inspiration, hein, c'est quand même Bellini, c'est quand même l'opéra italien du début du 19e siècle, et ensuite deux immenses compositeurs pour la voix, pour les leaders et la mélodie, Robert Schumann et Gabriel Fauré, né à Pamiers.
Voilà, oui, le régional de l'étape, toujours pour nous, Gabriel Fauré. Oui, il y aura effectivement plusieurs mélodies de Gabriel Fauré. Il y aura aussi deux mélodies d'Henri Duparc, n'oublions pas. Manoir de Rosemonde et Sidilé. C'est un très joli programme pour ceux qui aiment ce genre du lead et de la mélodie. Ensuite, nous aurons le dimanche 28 à 17h un intermède pianistique et mozartien, un intermède en clair-obscur, comme l'indique le titre du concert, pour lequel vous allez vous retrouver Ariel Sirat avec François Schwarzentruber, deux pianistes, deux sonates de Mozart composées dans des circonstances bien différentes tout de même.
Alors, dans la continuité du chant, évidemment, Mozart, tout est chanté, tout est pensé comme du chant, deux sonates au caractère très opposé, la sonate en la mineur que Schell 310, composée à Paris, qu'il a appris la mort de sa mère. Donc là, quelque chose de très dramatique, mais évidemment avec une expression extrêmement intérieure, c'est du très très grand Mozart. Et ensuite quelque chose de beaucoup plus léger, quoique une certaine profondeur, comme d'habitude chez Mozart, avec la sonate Köchel 331, très connue, puisque le dernier mouvement, c'est la célèbre Marche turque, jouée par grand nombre de pianistes et étudiants.
Je pense que c'est la pièce pour piano la plus célèbre de Mozart, hein, en tout cas la plus connue du grand public.
Ce peut-être pas mouvement, que de Mozart.
Oui, troisième mouvement à la Turca. plus connu sous le nom de Marche Turque. Donc François Schwarzentruber va jouer la sonate numéro 8 et vous jouerez la numéro 11. Et puis dernier concert, concert de clôture du festival 2021, dimanche à 18h30 avec le Quatuor Séléné, un quatuor à cordes formé par 4 musiciennes de l'Orchestre National du Capitole, qui présente un programme intitulé « Au Salon Razumovsky ». Qui était ce personnage, Ariel Sirat, Razumovsky?
Donc, Andrei Razumovsky, ambassadeur du Tsar auprès de la cour des Habsbourg à Vienne, qui a été l'un des mécènes de Beethoven, puisque Beethoven lui a dédié toute une série de quatuors tout à fait exceptionnels qu'on appelle les quatuors Razumovsky. Et on pourra en entendre un sous les doigt du quatuor Séléné, et là aussi un clin d'œil géographique puisque on entendra également de la musique russe, pays d'appartenance hein, de ce grand mécène, avec un quatuor d'Alexandre Borodine qui, pour la petite histoire, était chimiste, une forme de compositeur amateur néanmoins de génie.
Un scientifique qui faisait de la musique, comme beaucoup de nos pianistes grands amateurs sont également des scientifiques, c'est votre cas, Ariel Sirat. Donc le quatuor numéro 2 d'Alexandre Borodine et le quatuor numéro 7, opus 59, numéro 1 de Ludwig van Beethoven, dont voici un extrait, le premier mouvement Allegro, dans une version enregistrée par le quatuor Eben. Extrait du quatuor numéro 7, opus 59, numéro 1 de Ludwig van Beethoven, le premier mouvement Allegro interprété par le quatuor Eben, une formation où joue l'altiste toulousaine Marie Chelem, et ce sont également 4 musiciennes toulousaines, tout du moins membres de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse et fondatrice du quatuor Séléné, qui vont interpréter cette œuvre dimanche 28 novembre à 18h30 au Palais Niel lors du concert de clôture de Musique au Palais 2021. Au programme également le quatuor numéro 2 d'Alexandre Borodine. Voilà donc pour la belle programmation de cette 6e édition du festival, dont les bénéfices sont quasi entièrement reversés, je le rappelle, aux associations d'entraide parachutiste et Terre Fraternité, qui viennent en aide aux soldats gravement blessés ou handicapés et aux familles des morts au combat. Une action que vous soutiendrez en venant assister au concert. Serge Chosy, très rapidement, il nous reste un peu de temps pour présenter le concert de l'Orchestre du Capitole ce samedi 27 à 18h, un concert du cycle Happy Hour avec une seule œuvre au programme.
Une seule œuvre et un chef d'orchestre invité pour la première fois, chef d'orchestre américain Robert Trevino. Et la seule œuvre en question, c'est la première symphonie de Mahler, et qui aura l'avantage d'être jouée également avec Blumine, ce qui signifie fleurette en allemand, et qui faisait partie des esquisses de cette première symphonie de Mahler. Donc c'est très intéressant.
Et voilà encore une très belle œuvre au programme de ce week-end. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro de Mélomanie. Un grand merci à vous trois, Serge Chosy, Robert Pénavert et Ariel Sirat, d'en avoir été les invités. Je rappelle que la 6e édition de Musique au Palais a lieu à Toulouse, au Palais Niel, les après-midi des samedis 27 et dimanche 28 novembre, avec 3 concerts chaque jour autour d'une programmation dédiée à la musique de chambre européenne, de Bach à Maurice Ravel. Pour assister à ces concerts, il faut impérativement réserver vos places au préalable sur la billetterie en ligne du site web du festival www.musicopalais.org ou par téléphone ou par mail. Le numéro et l'adresse sont également disponibles sur le même site. Vous avez jusqu'au samedi 27 à 10h pour faire vos réservations. Notez aussi qu'il reste une représentation de la magnifique production de Wozzeck au Théâtre du Capitole, jeudi 25 novembre à 20h. Réservation et achat des billets en ligne sur le site www.theatredukapitole.fr. Et enfin, pour le concert Happy Hour de l'Orchestre du Capitole, ce samedi 27 à 18h à la Halle aux Grains, avec donc la symphonie numéro 1 de Gustav Mahler au programme, je vous invite à réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les mardis à 19h et les mercredis à midi. Merci de nous être toujours fidèles et très bonne semaine musicale à tous.